Bonjour, la Terre au Carré. C'est Christian de Marsat en Auvergne. On est en pleine période de chasse actuellement. La chasse, c'est un loisir autorisé, donc de ce point de vue, il n'y a évidemment aucun problème. Mais ce qui est vraiment insupportable, c'est d'entendre que la chasse, c'est la ruralité, et justement la défense de cette ruralité. Qu'est-ce qu'apporte donc la chasse à cette ruralité? La chasse favorise en fait la prolifération des rongeurs qui détruisent les récoltes et les prairies, notamment chez nous le fameux ratopier, en tuant par milliers des petits carnivores comme le renard qui sont les régulateurs justement de ces proliférations. Le deuxième exemple qu'on peut donner, c'est que la chasse favorise aussi les dégâts faits aux cultures lorsqu'ils élèvent et qu'ils relâchent des sangliers qui détruisent justement ces cultures. Alors bien sûr, ensuite, comme des pompiers pyromanes, ils se présentent comme indispensables pour réguler les sangliers. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir que seulement 8% des agriculteurs sont chasseurs et que finalement la majorité des chasseurs, ce sont des citadins. Merci, à bientôt.
Bonjour, Joseph d'Alfortville. Depuis de longues années, je voyage vers l'Allemagne et je constate que depuis 40 ans, les bouteilles de boissons, des eaux plates ou bien des eaux gazeuses sont toujours consignées. Et grâce à ce système, on ne trouve plus de bouteilles dans les rues, sur le trottoir et dans la mer. Et si nos écologistes, au lieu de nous fatiguer avec les voitures électriques, ils commenceraient par consigner les bouteilles, faire un peu de ménage dans la nature, je pense que ça serait un bon début pour tout le monde. Merci à vous et bon courage et à bientôt.
Jacqueline de Vigneault dans la Meuse. Je voulais revenir sur le projet CIGEO, projet qui consisterait à enfuir à 500 mètres sous terre des déchets nucléaires d'une dangerosité extrême. Certains d'entre eux resteront actifs des millions d'années. En janvier dernier, l'autorité de sûreté du nucléaire a émis un avis très critique sur le projet, pointant des graves insuffisances dans le dossier. En 2018, Barbara Pompili relevait des lacunes en matière de sûreté et l'impossibilité de prouver la sûreté à long terme et son coût imprévisible. Devenue ministre, elle affirme que le projet ira à son terme. Je me demande pourquoi donc la plupart des ministres, en arrivant en poste, changent de régime alimentaire et deviennent ophiophage, c'est-à-dire qu'ils doivent avaler des couleuvres.
Oui, bonjour, Alain de Gap. Simplement, je voulais dire qu'effectivement, vendredi dernier, il y avait une manifestation dans notre bonne ville de 40 000 habitants et nous étions 40. Donc, on compte sur vous, ayez la pêche et continuez comme vous êtes. C'est super, au revoir.
Bonjour à tous et à toutes, on est Juliette Fautilde, on appelle depuis Paris. On est deux jeunes diplômés ingénieurs agro et du coup, via notre domaine de formation en agronomie, on voudrait partager qu'un énorme levier d'action pour agir à son échelle, c'est l'alimentation. Parce qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre viennent de nos assiettes, ce qui est autant que le transport et le logement.
Et du coup, pour réduire cet impact, il y a des choses vraiment toutes simples à faire. Nous, on a choisi de manger plus local, de saison, sur notre territoire. C'est aussi important de végétaliser son alimentation en mangeant moins de viande, mais mieux. Bien sûr, de se remettre à cuisiner. Et d'ailleurs, pour ça, il y a une page de vulgarisation scientifique sur Insta qui s'appelle Terre à table. Donc, n'hésitez pas, jetez un coup d'œil, ça peut vous donner des outils. Et voilà, pour notre petite contribution.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Il y a deux semaines, ici même, nous consacrions la Terre au carré au sujet de la décroissance, sujet qui ne vous a pas laissé indifférent si on en juge par les très nombreuses questions et réactions que vous nous avez envoyées. Aujourd'hui, bien, nous vous proposons un deuxième volet en choisissant cette fois-ci le terme de sobriété que certaines personnes préfèrent à celui de décroissance. Mais derrière la nuance sémantique et quel que soit le mot utilisé, il y a toujours l'idée que la sobriété est un élément central de la transition écologique. Comment y parvenir pour minimiser nos impacts environnementaux, sanitaires et sociaux? C'est ce que nous allons voir avec nos invités pour ce dossier en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie. Et je salue Hortense Chauvin, Bruno Villalba et Cécile Désonnet. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bienvenue, Hortense Chauvin, vous êtes journaliste, vous avez supervisé donc ce dossier sur la sobriété pour Reporter, vous êtes également co-autrice avec Mathieu Ozano du livre « Pétrole, le déclin est proche » dont on avait parlé dans l'émission, c'est publié au Seuil. Cécile Désonnet, vous êtes vous spécialiste des questions de consommation et de mode de vie, vous êtes directrice d'études du think tank Futurible et vous êtes l'autrice de ce livre « La société de déconsommation, la révolution du vivre mieux en consommant moins », c'est aux éditions alternatives Gallimard. Et puis enfin Bruno Villalba, vous êtes professeur de sciences politiques à AgroParisTech et membre du laboratoire Printemps au CNRS. Vous avez coordonné un ouvrage sorti en 2018 chez Quae, s'appelle Sobriété énergétique, contraintes matérielles, équité sociale et perspectives institutionnelles. On va donc se retrouver dans un instant avec les messages qui arrivent déjà nombreux, les questions des auditrices auditeurs, franceinter.fr, le mot-clé l'attaque et bien sûr l'application où vous pouvez nous laisser vos notes vocales. 14h30, Camille Passauvert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Quel sera le sujet de votre chronique?
Alors je vais vous parler des labels alimentaires. Vous savez, les AOP, les labels rouges, les hautes valeurs environnementales. Selon les produits, il y a un peu un décalage parfois entre ce qui est affiché et la réalité.
Voilà pour le sommaire de l'émission. Charles de Silia est aux commandes, préparé par Lucie Sarfati, Léonard Ocade pour les réseaux sociaux et Clément Vuillet à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Les engagements de l'accord de Paris, il faut les multiplier par 5 pour avoir des chances de rester sur 1,5 degré. Il faut faire 5 fois mieux sur 2020-2030 que ce qui est prévu actuellement dans les accords de Paris. Il faut les multiplier par 3 si on veut avoir des chances de rester autour de 2 degrés. Ces chiffres sont là, ils datent vraiment du rapport précédent du GIEC. Donc oui, on sait ce qu'il faut faire et c'est pas à la marge, c'est vraiment multiplier par 3, multiplier par 5.
La voix du climatologue Jean Jouzel, c'était cet été au micro de LCP. Et la sobriété qui est aussi évoquée par le GIEC d'ailleurs pour pouvoir parvenir justement aux objectifs de l'accord de Paris. Sobriété, dossier de l'émission, en partenariat donc avec Reporter qui consacre toute cette semaine une série d'articles intitulée « Sans sobriété, on n'y arrivera pas ». Premier article, eh bien il sort aujourd'hui, Hortense Chauvin. Donc c'est une grande enquête hein, pendant 4 jours. Comment vous avez anglé finalement votre sujet sur la sobriété?
En fait, ce dossier, il est parti de l'observation que dans le débat public, aujourd'hui, la question des économies d'énergie est totalement invisibilisée. C'est-à-dire qu'on s'interroge souvent sur, pour décarboner, est-ce qu'on va créer des centrales nucléaires ou créer des éoliennes? Mais en revanche, on interroge jamais notre besoin d'énergie en tant que tel, alors que c'est absolument central, comme l'expliquait Jean Jouzel, pour atteindre les objectifs qui ont été définis par le GIEC et rester sous le seuil de 1,5 degré de réchauffement. Donc en fait, dans ce dossier, on a essayé dans un premier temps d'expliquer pourquoi la sobriété est essentielle, à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques et aussi réduire notre impact sur la biodiversité. Et ensuite, expliquer les limites, en fait, auxquels on fait face aujourd'hui pour faire de la sobriété un vrai modèle de société.
Donc, démarche qui semble essentielle telle que vous la décrivez, mais encore marginalisée effectivement, et la question énergétique absolument centrale. On va en discuter avec nos invités. Camille, je voudrais juste qu'on fasse un détour par les messages sur Instagram, parce qu'on a posé une question tout à l'heure, et je ne sais pas si l'énergie est abordée dans les réponses.
Alors la question c'est comment consommer moins? Alors il y a beaucoup de réponses sur la transition alimentaire, plus de végétal, manger mieux, regarder moins les médias sociaux qui nous donnent envie d'acheter plein de choses, mais il n'y a pas d'évocation de l'énergie pour l'instant, alors que c'est effectivement la base, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme, hein, que ce soit chez nous pour nous chauffer, pour rouler, ou même des vêtements qu'on porte, il y a besoin d'énergie, Bruno Villalba.
Oui, c'est ce qui rend le problème de la sobriété un peu compliqué à saisir, parce qu'on pourrait avoir le sentiment que faire un minimum d'effort sur une ou deux pratiques permettrait d'entrer en sobriété. En fait, l'énergie permet de montrer qu'on est sur un problème qui est extrêmement complexe et qui aborde toutes les dimensions de la vie quotidienne. Donc si on veut rentrer dans une démarche de sobriété, c'est effectivement l'ensemble de ces interactions qu'il faut interroger à partir de la question énergétique, par exemple, à partir de la question climatique ou à partir aussi de la question de la biodiversité.
Ouais, ce qui est compliqué avec l'énergie, parce que c'est finalement une substance assez impalpable, en tout cas largement dématérialisée, et c'est d'autant plus difficile de convaincre les personnes sur cette question.
C'est un problème d'invisibilité. Ouais. En fait, on a mis à distance le système de production énergétique et cette mise à distance fait que le rapport qu'on peut avoir avec cette matière première qui alimente l'ensemble des rouages de la société, eh bien, est moins palpable. Or, la question effectivement des limites écologiques, c'est de réintroduire cette question du stock de la ressource disponible dans le débat public. Contrairement à l'image et à l'imagerie populaire et politique qui considère que on va maintenir cet imaginaire d'une infinité de choix possibles pour le développement économique, pour nos modes de vie, pour la réussite de nos aspirations personnelles. Et d'un seul coup, il y a une limite qui nous dit, eh bien, c'est pas si compatible que ça, il va falloir réinstaurer peut-être de l'ordre des priorités ou de l'ordre de l'interrogation sur ce qui est de l'utilité ou du futile. Hein, on l'a bien vu au moment du Covid, ce débat.
Cécile Desonnet, donc c'est toute la question. Hein, pour atteindre les objectifs, on le disait, de l'accord de Paris, ben, on sera obligé forcément d'en passer par la sobriété et donc par la question de l'énergie qui est absolument cruciale.
Oui, bien sûr, juste pour répondre là-dessus, puis pour rebondir sur cette question des imaginaires. En fait, même pour aller dans le sens de ce que disait Jean Jouzel, en gros, aujourd'hui, l'empreinte carbone moyenne des Français, on est quasiment à 11 tonnes par personne. Si on veut effectivement atteindre les accords de Paris, il faut qu'on descende à 2 tonnes. Donc d'accord, il faut qu'on diminue de 80% notre empreinte moyenne, parce qu'on est vraiment sur des moyennes, et il y a un aspect qui est important, c'est la question des inégalités aussi.
On en parlera bien sûr.
Voilà, en termes de public. Mais je pense que peut-être pour pas aller trop loin déjà, mais sur la question des imaginaires, je pense que c'est vraiment un point qui est déterminant. Si aujourd'hui on en est là à discuter de ce sujet-là, c'est parce qu'on a quoi ? On a un imaginaire qui est encore dominant, qui est celui de la société de consommation, qui est tellement puissant qu'en une soixantaine d'années, il est devenu la norme dans la plupart des pays occidentaux et qu'il le devient aussi dans un certain nombre de pays en développement. Aujourd'hui, c'est la majorité, la consommation, c'est la majorité du PIB en France, c'est l'essentiel des dépenses des ménages, etc. Et c'est aussi... Il y a toute une symbolique derrière, donc c'est la satisfaction des besoins et c'est bien plus.
C'est vraiment le maître étalon finalement, voilà, de nos façons de vivre.
Mais en même temps, c'est aussi un système qui se fissure un peu de tous les côtés parce que on prend conscience de tous ces impacts, disons négatifs, de tous les enjeux qu'il peut générer en termes environnementaux, climatiques bien sûr, mais aussi en termes sociaux, économiques, etc. Et donc c'est ça aussi qu'on est en train de réinterroger, c'est quelle place pour la consommation demain dans notre société et quelle alternative on peut imaginer, quel autre récit, quel autre imaginaire on peut imaginer qui nous place sur une posture qui soit un petit peu plus tenable par rapport à cet enjeu climatique.
Hortense Chauvin, la sobriété, ben c'est ce qui vient après la détox, hein, finalement. Sauf que le problème, c'est qu'on est encore dans la période d'ébriété, hein, si on prend des métaphores.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est en pleine ébriété. On le voit malheureusement, la sobriété n'est pas du tout organisée à l'échelle structurelle. C'est-à-dire que, par exemple, si vous habitez... en pleine campagne, vous allez préférer utiliser votre voiture plutôt que des transports en commun parce que vous n'avez pas une offre en fait de transport qui vous permet d'aller vers des alternatives sobres. En fait, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai retenu de cette enquête, c'est que la sobriété, elle doit vraiment être organisée à l'échelle étatique, structurelle. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas du tout le cas en fait.
C'est-à-dire que c'est plutôt l'individu qui est visé dans ses comportements quotidiens de consommateur.
Exactement, c'est-à-dire, c'est Bruno Villalba qui en parlera le mieux, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on individualise totalement la notion de sobriété, on fait porter sur l'individu la responsabilité, alors que ça serait plus simple si l'État portait ce modèle de société.
Allez, on va écouter un message d'auditeur sur l'application France Inter.
Bonjour, je m'appelle Charles, j'ai 33 ans, j'habite dans le Loir-et-Cher. La sobriété, oui, effectivement, je pense que c'est ce à quoi on doit tendre, mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, je pense que la sobriété doit devenir rentable. Comment faire ?
Oh là, une sobriété qui doit devenir rentable, ça paraît assez antinomique, mais pourquoi pas, Bruno Villalba, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, on peut mettre en place des politiques d'incitation à la sobriété, par exemple, il y a la question de la fiscalité écologique qui peut accompagner ce dispositif en favorisant l'utilisation de tel type de produit au détriment de tel autre, donc avec une planification différenciée, ça peut être envisageable. On peut aussi envisager d'instaurer des taxes sur des produits qu'on jugerait effectivement de luxe au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas complètement utiles à l'épanouissement des relations sociales et qui sont simplement des outils de distinction sociale.
Vous penseriez à quoi, par exemple ?
Oh, les grandes marques, par exemple. Alors, je sais bien que ça représente beaucoup d'argent dans le produit intérieur brut, mais en même temps, en termes d'utilité et de finalité sur le développement de nos sociétés, on voit bien que c'est pas là où la priorité. Hein, c'est-à-dire que au moment du Covid, encore une fois, c'était un exemple intéressant de contraction, hein, des possibilités de s'épanouir, de se mouvoir, de manger.
Oui, mais finalement, pardon, je vous interromps, mais les grandes marques, les produits, on va dire comme ça, de consommation, ce n'est pas la première raison, c'est pas même si on les arrête complètement, on imagine, c'est pas ça qui va changer la trajectoire des gaz à effet de serre, parce que les premiers émetteurs, c'est l'agriculture ou les transports.
Non, c'est illustratif, c'est-à-dire que ça montre bien que dans une société où ce qui est important, c'est la capacité du système politique à la réalisation des besoins individuels. Et le système politique l'encourage, hein, c'est l'individualisation des besoins, des désirs, etc. Et à partir du moment où vous avez tout un système de gamme qui vous donne la possibilité de vous distinguer en fonction comme ça des modes de consommation différenciés, évidemment, on retrouve la pluralité de ces offres-là. Par contre, à partir du moment où on va devoir se concentrer sur l'utilisation de ressources énergétiques par rapport à des besoins qui sont extrêmement importants, eh bien donc là, on va faire effectivement ce calcul, ce ratio entre l'utilité productive de ce type de produit et l'utilité sociale d'autres types de produits.
La sobriété, qu'en pensez-vous ? On attend vos réactions, vos questions, vos messages sur franceinter.fr.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne nous lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire c'est la fin.
C'était Juliette Armanet sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
La sobriété, dossier de l'émission avec Bruno Villalba, Cécile Désonnet, Hortense Chauvin, deux reporters, puisque nous sommes en partenariat avec reporter.net pour ce dossier. On n'a pas répondu tout à l'heure à la question de notre auditeur Charles sur la possibilité de concilier la sobriété avec la rentabilité. Et pour lui répondre, j'aimerais d'abord qu'on écoute le chef de l'État, c'était Emmanuel Macron, en juin 2020 à l'occasion de la Convention pour le climat.
On doit remettre l'ambition écologique au cœur du modèle productif. C'est-à-dire chercher, par ces transformations, ces investissements, à produire différemment. Et c'est un changement profond de philosophie. Mais le deuxième choix auquel vous tournez le dos aussi, c'est celui qu'on appelle le modèle de la décroissance. Vous ne proposez pas de ne plus produire. Et je crois comme vous que ce ne serait pas une réponse au défi qui est le nôtre. Vous voulez qu'on produise, pour servir ce modèle, un modèle humaniste. Mais si nous disions collectivement, pour réussir ce défi écologique, il faut moins travailler, moins produire, j'aurais une réponse simple alors à vous apporter. Je vous dirais en bonne foi, si nous produisons moins et nous travaillons moins, nous ne pourrons plus financer le modèle social qui est le nôtre. Un modèle de décroissance, c'est un modèle de décroissance aussi de notre modèle social. Et donc on voit bien que le choix de décroissance n'est pas une réponse au défi climatique non plus.
Voilà, Emmanuel Macron, c'était donc en 2020, avec des réactions sur ses propos. Et on peut rebondir justement sur l'idée de sobriété, de rentabilité, parce qu'il y a une sorte d'impossibilité là qu'on entend.
À partir du moment où on pose les termes du débat de la sobriété en ces termes-là, effectivement, c'est pas compatible. La rentabilité, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un système de compétition économique, de concurrence. La sobriété, au contraire, c'est élaborer d'autres types de liens, réfléchir un peu à la valeur d'usage d'un bien plutôt que sa valeur monétaire ou sa valeur d'échange. Donc on voit bien que si on s'inscrit dans une logique de rentabilité de la sobriété, on risque simplement de déplacer un modèle productif qui sera toujours un modèle consumériste, mais pas vraiment répondre aux problèmes écologiques qui sont les nôtres actuellement.
Mais il y a quand même une réalité aujourd'hui qui est économique et donc sociale, Cécile Dezonné, c'est que la sobriété aujourd'hui, si on arrête beaucoup de modes de production, il y a des gens qui vont se retrouver au chômage. Le système est construit sur ce système de société de consommation, en tout cas celui en Occident, donc comment on fait ?
Voilà, en fait, on est face à un double enjeu qui paraît irréconciliable. C'est d'un côté, comment on fait pour avoir un modèle de développement qui soit compatible avec les limites planétaires, les limites écologiques et l'enjeu climatique ? Et de l'autre, comment on fait pour conserver quand même un système qui produit suffisamment de richesses pour satisfaire nos besoins collectifs ? Parce que, effectivement, notamment en France...
Et protéger la société, le système, par exemple, sanitaire ?
Alors, c'est pas le cas. Là, on a un raisonnement qui va être un petit peu plus français, mais en France, on est dans un pays où on mutualise énormément. On a fait ce choix, effectivement, de consacrer beaucoup de dépenses publiques à ces enjeux que sont la santé, l'éducation, etc. Si on veut conserver ce modèle-là, ça veut dire qu'il faut inventer de nouvelles manières de continuer à produire des richesses. Et donc là, personne n'a la réponse absolue.
Ah voilà, j'allais vous demander, oui.
Non, bah, sinon je serais riche. Enfin, ou pas, mais en tout cas...
Et on avancerait beaucoup plus
voilà.
vite.
Non, mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de mettre l'accent sur cet enjeu-là et sur comment on fait. Comment on fait pour tester, valoriser, changer d'échelle sur des modèles qui commencent quand même à faire leurs preuves, ou en tout cas qui suscitent pas mal de questions. Vous avez bien sûr l'économie circulaire, même si derrière ce terme, maintenant, on met tout et n'importe quoi.
Mais c'est quoi ? C'est s'endetter beaucoup plus, par exemple, sur certaines filières qui aujourd'hui ne tiennent plus. Par exemple, si je prends le volet biodiversité, on parlait beaucoup il y a quelques mois de la betterave, du problème des betteraviers avec près de 50 000 emplois. Ces betteraviers, on peut pas non plus les laisser tout seuls. Donc en gros, il faut que l'État, quel qu'il soit, prenne en charge une certaine casse sociale le temps de la transition, en fait, concrètement, c'est quoi ?
Je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est définir déjà le cap auquel on va arriver. En France, par exemple, on a un cap qui a quand même été défini, qui est celui de la neutralité carbone. On va pas débattre forcément tout de suite de ce que ça veut dire. Ensuite, c'est comment on fait pour y arriver, effectivement. C'est quoi les mesures à mettre en place ? Quelles sont les filières ou les secteurs qui vont souffrir dans ce contexte-là ? Parce que, de fait, ils n'arriveront plus à travailler et à fonctionner de la même manière. Quels sont, à l'inverse, les secteurs qui vont se développer ? Parce que c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que on se dit, là, en gros, il y a des activités qui consomment trop de ressources matérielles ou, pour reprendre l'exemple de l'agriculture, ben peut-être qu'effectivement il faut passer à une agriculture majoritairement biologique, etc. Donc comment on fait pour accompagner ces filières-là dans leur transition ? Et donc oui, bien sûr, si encore une fois on est en France, on fait ce choix d'accompagnement avec des aides publiques, il faut du temps aussi. Mais la transition, elle est d'autant plus facile à accepter que, un, justement, on a ce cap, et que, deux, on accepte l'idée que la situation, si on ne fait rien, sera pire que cette transition. J'ajoute un dernier mot, vous avez une étude de la BCE, donc c'est pas n'importe qui, de la Banque Centrale Européenne, qui nous dit de toute façon, si au niveau européen, on ne prend pas des mesures suffisantes pour lutter contre le changement climatique, ça va nous coûter 10 points de PIB. Donc de toute façon, la transition coûte moins cher que de ne rien faire.
Hortense Chauvin, est-ce que pour Reporter, justement, vous avez étudié la soutenabilité, finalement, de la mise en pratique d'une sobriété pour la société, puisqu'il y a un certain nombre de solutions que vous proposez, mais est-ce que parallèlement, vous avez étudié la solidité au fond du projet ?
En fait, c'était pas vraiment l'angle qu'on a choisi. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment montrer dans un premier temps les limites et aussi montrer les co-bénéfices, parce que là, c'est intéressant, on a une discussion sur tous les problèmes économiques qui pourraient potentiellement naître. Mais on ne parle pas du tout des co-bénéfices de la sobriété qui pourtant sont extrêmement nombreux. Une société sobre, ça pourrait aussi être une société où il y a moins de pollution de l'air, par exemple. La pollution de l'air, ça tue 8 millions de personnes par an dans le monde. Ça pourrait aussi être une société où on fait davantage d'activités physiques et donc du coup on a une meilleure santé cardiovasculaire.
Il y a des gens qui vont vous dire c'est les bisounours, on n'y est pas du tout. Enfin, je suis désolée, je me fais la voix de ces personnes-là, mais ils vont le penser en vous entendant.
Oui, oui, et je l'entends, et c'est pour ça que, après moi, je suis juste journaliste. Il y a énormément d'institutions très sérieuses qui s'interrogent aujourd'hui sur ces questions. Je pense à l'ADEME, au Shift Project, à Negawatt et à Virage Énergie, qui montrent qu'en fait, on pourrait construire un modèle de société autour de la sobriété. Et leurs études sont extrêmement sérieuses. Ils se contentent pas de décrire un monde de bisounours.
Mais vous proposez justement différents types de sobriété aussi pour voir concrètement, par exemple pour les particuliers, comment on pourrait agir, c'est-à-dire en partageant par exemple des objets plutôt que d'en acheter. Et ça, c'est des idées aussi à développer pour l'avenir.
Oui, tout à fait. Et par exemple, c'est intéressant, vous parliez d'économie. On pourrait voir se développer davantage de bricothèques ou de repair café, en fait, réorganiser toute l'économie autour de la question de la durabilité. Faire en sorte que nos équipements durent plus longtemps, etc. Il y a aussi une alternative, on a évoqué l'économie circulaire, mais l'économie de fonctionnalité aussi, c'est une alternative intéressante qui aurait toute sa place dans une société sobre. L'idée de l'économie de fonctionnalité, c'est qu'au lieu de vendre des biens, on vend des services, et donc les entreprises auraient tout intérêt à faire en sorte que les objets qu'elles vendent durent plus longtemps. Voilà, ça c'est une alternative qui s'insérerait économiquement dans une société sobre.
Pascal sur franceinter.fr nous demande si vous pourriez citer très vite trois priorités de réduction de la consommation d'énergie. Il a besoin qu'on le guide, Pascal. J'imagine que c'est pas le seul, Bruno Villalba.
Alimentaire, mobilité, biens de consommation courante.
Eh ben c'est bien, on va y revenir dans un instant, on aura le temps de développer. Il y a beaucoup d'autres messages qui vous attendent sur l'application France Inter, par exemple avec vos notes vocales.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, Camille Cronier, vous passez au vert comme tous les jours.
Et je vous emmène dans une jungle aujourd'hui. Alors oubliez par contre les arbres et les racines, on est dans la jungle des étiquettes et des labels alimentaires. Vous savez, tous les AOP, appellations d'origine protégée, les labels rouges, les agricultures biologiques, mais aussi les HVE, haute valeur environnementale, fermier, élevé en plein air, agri-confiance, ou les privés comme Bleu Blanc-Cœur, Déméter, bio-équitable en France, Nature et Progrès, etc., etc., etc. 89% des consommateurs s'appuient sur ces labels quand ils font leurs courses, sans y croire forcément, cela dit, hein. Et trois associations ont décidé de se pencher dessus. UFC Que Choisir, Greenpeace et WWF. Trois associations qui parlent ce mardi de promesses non tenues, de décalage entre les intentions affichées et la réalité. Arnaud Gauffier du WWF France.
Le problème aujourd'hui, c'est que c'est la jungle, personne s'y retrouve et il y a du très bon comme du très mauvais qui cohabite.
Alors, il a participé à une conférence de presse en ligne ce matin pour montrer qu'il y avait effectivement un peu de tout hein, sous ces étiquettes. Et le président de l'UFC Que Choisir, Alain Bazot, insiste bien.
Ça ne veut pas dire que tous les produits sous label ne sont pas bons. C'est bien ça la difficulté. C'est qu'hélas, il y en a qui sont labellisés et qui méritent de l'être et qui ont une vraie qualité supérieure. Et puis d'autres qui profitent de ce label et qui ne l'ont pas. Et donc c'est une alerte que l'on lance parce que c'est dans l'intérêt même des professionnels que de garantir une vraie typicité et pas un espèce de parapluie qui abrite tout et n'importe quoi.
Alors, ils ont évidemment illustré tout cela avec des exemples, mais je vais être honnête, sur mon heure d'enregistrement ce matin, 54 minutes ont disparu de mon ordinateur et même les spécialistes de Radio France n'ont pas compris. Magie de la technologie. Donc autant vous dire que j'ai passé une superbe matinée. Donc je vais vous raconter ce qu'il y a dans leur étude, à défaut de les entendre. D'abord au sujet donc des AOP sur les fromages. Le cahier des charges. Les cahiers des charges de 8 produits ont été analysés avec la collaboration de l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et là, ben Mathieu, je vais avoir besoin de vous.
Alors, je vous dis Camembert de Normandie, Münster, Picodon, Saint-Nectaire, Cantal, Salers, Laguiole et Abondance.
Salers, sans dire le S à la fin, si Merci. Je puis me permettre. Résultat, donc, pour ces 8 fromages, pour 3 d'entre eux, le cahier des charges, donc le cahier des charges qui est garant, normalement, de conditions de production traditionnelles et typiques, eh bien, il ne suit pas, à savoir le Saint-Nectaire, le Cantal et le Münster. Les interdictions de lait pasteurisé, de fourrage fermenté ou la proportion minimale de vaches de race locale ne sont pas obligatoires pour les entrées de gamme. Donc, ils ne devraient pas logiquement pouvoir bénéficier de l'appellation, dit l'étude. Côté label rouge, on sait garantir, lui, des produits de qualité supérieure. 12 viandes testées et à l'arrivée...
Pas de qualité supérieure exigée pour le porc.
Eh oui, pour le porc. Alors, le cahier des charges n'exige pour le porc label rouge qu'une alimentation de bonne qualité nutritionnelle, rien en ce qui concerne la race spécifique, un accès garanti à l'extérieur ou l'âge d'abattage, alors que c'est le cas par exemple pour le poulet.
Et pourquoi ces cahiers des charges, ces exigences ne sont pas les mêmes pour tous les produits qu'il
y a ? Alors là, les associations expliquent qu'il y a un gros problème à la base, c'est que ceux qui font les certifications, donc les cahiers des charges et qui les contrôlent, sont les professionnels des filières eux-mêmes. Extrait sauvé d'Alain Bazot de l'UFC Que Choisir.
Il y a y a des acteurs qui sont dominants sur le marché. Et donc, cette domination a pu s'exercer à l'intérieur de ces organismes où c'est la profession en elle-même qui gère l'ensemble. Là, il y a trop juge et parti, pas de contrôle indépendant pour assurer la police du cahier des charges. Une fois qu'on a un bon cahier des charges, encore faut-il qu'il y ait un respect. C'est un tout.
Oui, il trafiquait son ordinateur pendant qu'il parlait. Ouais. Désolé, c'était la conférence en ligne encore une fois. Et c'est pas tout, hein, par rapport à ce qu'il dit. L'étude se penche également, donc je vous le disais, sur le label HVE, haute valeur environnementale, dont on entend beaucoup parler puisque les pouvoirs publics l'encouragent, avec en particulier les aides de la future PAC, la politique agricole commune, qui devrait s'orienter vers ce HVE. Verdict.
Effet faible et peu avéré. Si on note un impact positif modéré pour la qualité des sols, on relève en revanche des bénéfices faibles et peu avérés sur les critères de santé humaine et environnementaux, ressources en eau, biodiversité, qualité de l'air, climat. Les bénéfices ne sont pas démontrables en l'état sur les autres critères socio-économiques, niveau de vie, décent, cohésion sociale, etc.
Idem pour AgriConfiance. Zéro résidu de pesticides aussi et certains labels dits privés comme c'est qui le patron, je ne sais pas si vous connaissez ce label, c'est qui le patron, jus de pomme, bleu blanc cœur, porc volaille, lui s'en sort pas très bien non plus. C'est un peu mieux par contre pour bleu blanc cœur lait et encore mieux, même bien pour le label AB, agriculture biologique, Déméter ou bio-équitable en France. Mais vous le voyez, les associations le disent, au vu, je cite encore, au vu de l'hétérogénéité des bénéfices, il est difficile pour le consommateur de faire un choix raisonné, il était même difficile pour la journaliste de vous résumer tout ça. Donc elle demande, toutes ces associations, de revoir le processus de certification et de contrôle, les critères et les aides publiques.
On s'est retrouvé dans la jungle des labels et c'est à retrouver PMI Passe au Vert sur franceinter.fr.
Cécile Dezonné, est-ce que les intérêts parfois de certains, les intérêts particuliers, viennent nuire évidemment à l'intérêt global et public?
Alors oui, mais peut-être pour rebondir là sur tout ça, il y a ça, mais il n'y a pas que. En l'occurrence, on a par exemple un enjeu très technique. C'est très compliqué d'harmoniser les manières dont on mesure l'impact environnemental des produits aujourd'hui, notamment des aliments. Il n'y a pas de manière harmonisée de le faire. Donc ça, c'est un premier enjeu, parce que du coup, c'est compliqué de comparer les impacts entre eux. Mais c'est en cours, enfin, en tout cas, c'est un projet, avec notamment ce qu'on appelle l'éco-score ou l'affichage environnemental, dont l'objectif, c'est justement d'avoir sur tous les produits, de la même manière que vous avez le Nutri-Score, d'avoir l'impact environnemental de votre produit. Alors, reste à savoir comment on va le faire. Et sur, est-ce qu'on va, par exemple, mesurer uniquement les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on va aller plus loin? Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Et je pense que c'est important à souligner aussi, ne pas dire juste que tout va mal. Et pour moi, c'est un indicateur qui est intéressant parce qu'ensuite, ça peut être le préalable à plein d'autres choses. Et notamment ce que disait Bruno, tous les projets qui sont aussi encore, enfin, envisagés aujourd'hui, par exemple, par la Commission européenne, de mise en place d'une TVA qui serait différenciée selon l'impact environnemental des produits. Donc très concrètement, vous achetez des bananes bio, elles vous coûteraient moins cher parce que...
Oui, mais encore faut-il que l'impact environnemental soit bien calculé et c'est là.
Non, mais bien sûr, c'est pour ça que ça serait la deuxième étape. Le préalable, c'est bien sûr de bien mesurer l'impact environnemental et pour ça, d'avoir une manière un peu harmonisée de le faire. Mais ensuite, c'est quand même une manière ensuite de différencier les produits selon cet impact environnemental.
Et on parle ensemble de la sobriété cet après-midi. c'était Parcelle sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Sobriété en partenariat avec Reporter.net et nos invités Bruno Villalba, Cécile Désonnet, Hortense Chauvin pour évoquer donc ce sujet de société qui fait son chemin, semble-t-il. On a quand même l'impression que finalement la société est plus rapide, Hortense Chauvin, que les politiques eux-mêmes sur ces questions, non ?
C'est intéressant parce que souvent ce qu'on observe en effet, c'est que les citoyens ont envie d'aller vers davantage de sobriété, mais souvent en fait ils se heurtent à l'obstacle principal à la sobriété, qui est qu'elle n'est pas organisée à l'échelle systémique. Par exemple, un des freins aujourd'hui à la sobriété, c'est la présence extrêmement forte de la publicité. Si vous, en tant que citoyen, vous voulez moins consommer, mais que pendant votre journée, vous êtes confronté à des milliers de messages publicitaires qui vous incitent à consommer, à un moment, ça va être difficile pour vous d'aller vers la sobriété. Donc on a cette envie, et je pense que là-dessus, Cécile Désonnet pourra également répondre, on a cette envie d'un nombre croissant de citoyens qui, parfois, malheureusement, se heurtent à l'obstacle des réglementations en vigueur.
À ce sujet, on va écouter la chercheuse et hydrologue Aziza Emma, et vous pourrez commenter justement ces propos qui vont dans ce sens.
C'est assez terrible hein, parce qu'on se demande comment on va réussir réellement à changer de système. Le problème, c'est qu'on a des cerveaux qui ont été abreuvés de publicité pendant des années très consuméristes. En fait, on a capté nos cerveaux, on les a quasiment hypnotisés en nous expliquant avec des informations de masse qu'en réalité, il fallait consommer, que ça, c'était bon pour notre santé, ça, c'était bon pour nos enfants. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on consomme, effectivement, derrière, on va utiliser des produits, des matières premières, des ressources. Si on regarde juste un hypermarché, il y a entre 25 et 40 000 références qui sont toutes faites pour que vous puissiez les consommer, que ce soit en termes de couleur, en termes de positionnement dans le magasin. Et donc, à un moment donné, comment vous allez expliquer à toutes ces populations qu'il va falloir effectivement changer de modèle ? Et comment on va réussir à modifier ce système ?
Voilà, Emma, Aziza, Céline Désonnet, c'est un vrai changement de logiciel hein, finalement. Hein.
Exactement, c'est le terme que j'utilise. En gros, ce qu'on vient d'entendre là, c'est une très bonne illustration de ce que Dominique Médard appelle le dilemme entre le bon consommateur et le bon citoyen. D'un côté, on dit, allez, justement, soyez des bons citoyens, faites attention à ne pas... Enfin, pardon, des bons consommateurs, faites attention à ne pas trop consommer, à limiter votre impact environnemental. Et à côté, on vous dit aussi, oui, mais si vous consommez moins, vous allez moins contribuer à la production de richesses, etc. En tout cas, il y a une tension là qui s'instaure. Et puis, pour rebondir sur ce que vient de dire Hortense, effectivement, à l'échelle individuelle, de toute façon, on est limité parce qu'on est inséré dans des systèmes qui, eux-mêmes, vont générer énormément de consommation de ressources. Et quoi qu'on fasse, on ne pourra pas lutter contre ça. Et vous avez une étude de Carbone 4 qui dit que même avec tous les meilleurs efforts du monde, les individus ne peuvent pas réduire leurs émissions individuelles de plus de 45%, en gros. Ça, c'est la limite, parce que derrière, il faudrait changer les systèmes agricoles, les infrastructures de transport, etc., etc., tous les systèmes économiques. Donc ça, c'est la vraie barrière qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire passer ce concept de sobriété qui, historiquement, était quand même plutôt pensé à l'échelle individuelle. On ne sait pas encore le penser à l'échelle collective et en faire un vrai modèle de société. Et ça, je pense que c'est un point qui est important.
Justement, Nicole nous écrit, il y a des problèmes. Oui, il faut réagir, mais au seul niveau français, c'est une bévue. Surtout, il faut faire adhérer et ne pas être des repoussoirs. Et Laure ajoute, elle nous écrit, pour moi, la question de la sobriété, c'est surtout politique. Hein. En effet, comme l'a dit votre intervenante, il faut que les choses s'organisent à l'échelle étatique. Seulement, pensez-vous que nous puissions y arriver, d'une part, sans briser le consensus démocratique et d'autre part, à l'échelle mondiale, Bruno Villalba ?
La démocratie peut tout à fait poser ses propres limites, c'est son principe même de mettre en débat des choses. La question c'est de savoir comment on met en débat les termes de la sobriété, on l'a bien vu dans l'intervention de Macron, c'est un effet repoussoir. Et donc dès lors que vous délégitimez le principe, vous ne le mettez pas en débat. On a vu que les citoyens sont plutôt enclins à interroger ce principe, que c'est compliqué dans l'intimité de leur vie, parce que contrairement à souvent ce qui est dit sur la question de la consommation, on ne consomme pas pour consommer, on consomme pour chercher un bien-être, un confort. Or, tout nous incite à cette recherche de confort, qui est gage de sécurité, qui est gage d'insertion sociale, etc. Donc, on est là pris dans une contradiction extrêmement importante, et le débat démocratique devrait pouvoir permettre de dépasser cette contradiction apparente, et simplement de poser la question des perspectives. Et deuxième chose intéressante dans cette question du débat, c'est le contexte international. C'est-à-dire que si on rentre dans une logique de sobriété en France, on va se faire dépasser par la gauche, par la droite, par d'autres pays, etc. C'est une illusion totale de réfléchir comme ça, puisque de toute façon, les contraintes écologiques sont planétaires. Et il faut aussi concevoir l'idée que ce n'est pas un débat démocratique que nous devons mener uniquement entre nous. C'est-à-dire qu'on doit aussi y inclure les non-humains. Parce que si les enjeux du réchauffement climatique se posent pour les questions humaines, elles se posent aussi sur les questions des non-humains. Donc comment faire entrer en débat tous ces gens-là pour savoir comment on va établir de nouvelles règles de cohabitation sur la planète.
Et comment faire entrer la voix des plus modestes aussi dans ce débat? On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est aussi une vraie question, parce que souvent dans ces débats, précisément, ce sont les plus aisés et les plus émetteurs de gaz à effet de serre qui s'expriment. Donc, Cécile Desonnet, il faut parvenir aussi à inclure tout le monde.
Oui, alors ce sujet, il est complexe, parce que souvent, on a tendance à le caricaturer un peu. Effectivement, les publics les plus aisés, les plus éduqués sont à la fois ceux qui ont l'empreinte environnementale la plus élevée et ceux qui vont le plus faire savoir qu'ils font des choses, qu'ils sont actifs. C'est pas forcément les seuls. Enfin, moi, c'était une des surprises que j'ai eues en préparant mon livre. C'est, en fait, il se passe beaucoup de choses aussi du côté des plus précaires, enfin, en tout cas des ménages qui ont peut-être moins de marge de manœuvre, parce que c'est aussi ceux qui sont les plus victimes justement de cette société du gaspillage et donc qui ont le plus besoin de réduire les gaspillages à tous les niveaux, y compris énergie, etc., pour augmenter leur marge de manœuvre. Ensuite, effectivement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des publics qui vont devoir être aidés, accompagnés, sans doute plus que les autres. Mais ça, en France, on sait faire. On a déjà des compensations, justement, sur le plan d'énergie, pour les publics les plus précaires. Il faut inventer ces compensations-là. À chaque fois qu'on met en place des mesures qui peuvent être un peu contraignantes, un peu compliquées pour les ménages, on peut tout à fait l'inventer et le concevoir, en tout cas en France.
Allez, une note vocale de Geoffrey sur franceinter.fr.
Bonjour, merci beaucoup pour votre émission totalement dans l'époque. Moi, la sobriété, je suis totalement pour. Là où je me pose une question, c'est que très souvent, pour pouvoir acheter des produits qui consomment peu, il faut de l'argent. Donc, encore une fois, les riches pourront être sobres, les pauvres non. Je pense à ça parce que je suis en train de regarder actuellement pour changer de réfrigérateur qui fait partie de 30% de notre facture d'électricité annuelle pour quasiment tout le monde. Et encore une fois, pour avoir un appareil qui va consommer peu, on se retrouve à devoir payer une fortune, pas loin d'un mois de salaire, pour avoir quelque chose en classe énergétique AAA+++. Voilà, donc encore une fois, ne serait-il pas possible d'aider un petit peu plus les petits salaires pour pouvoir s'équiper et être un petit peu plus sobre et que d'un point de vue consommation d'énergie. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Bruno Villalba pour répondre à Geoffrey.
Alors Geoffrey montre effectivement cette idée du rattrapage, c'est-à-dire l'illusion qu'on aura encore la possibilité d'accéder à un certain niveau de vie qui serait considéré comme étant le niveau acceptable sur le plan des relations sociales. Quand on avait fait notre étude sur la sobriété énergétique, il y avait Didier, un précaire qu'on avait interrogé, mais vraiment qui était depuis des années en difficulté énergétique, parce qu'il vivait à la rue. Et au moment de l'entretien, il me regarde et il me dit « Mais assez, c'est combien ?» Et j'ai trouvé que cette formule était extrêmement intéressante. C'est-à-dire, qui va définir le seuil de ce qui est acceptable dans une société? Et on voit bien, à travers la question de Geoffrey, c'est que lui, son seuil, c'est un niveau de frigo acceptable. Donc c'est un niveau d'équipement. Et puis si on élargit, ça va être un niveau d'habitation. Puis si on élargit, ça va être un niveau de mobilité. Et puis si on élargit, etc., etc. Autrement dit, on voit bien que ce niveau de seuil, il est extrêmement intéressant parce qu'il est défini par les règles sociales. Il est défini par Macron qui nous dit que l'imaginaire, c'est celui de la compétition, de l'accumulation des biens matériels, etc. Et puis d'un autre côté, eh bien, on a conscience de cette petite musique des contraintes temporelles. Là, il nous reste 10 ans, dit Jean Jouzel, mais on a tendance à reléguer un peu ça et ramener au présent parce que l'emploi, parce que la production, parce que les biens de consommation essentiels, etc., etc.
On a justement Gilles qui nous écrit encore par rapport à ça. N'est-ce pas au niveau des entreprises qu'il faudrait commencer? Mais une entreprise qui aurait pour objectif de vendre de moins en moins au nom de la sobriété, pourrait-elle survivre? Et j'ajoute Sophie qui nous écrit, qui nous cite Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas.
C'est dans le livre de Cécile Desonnet. C'est la première phrase qui est exactement... C'est ça.
Donc c'est ça, en fait, finalement, c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que ce sont les consommateurs qui achètent, donc les entreprises qui fabriquent, mais si les entreprises arrêtent de fabriquer, enfin, tout se casse la figure, c'est très compliqué, Hortense Chevin.
Oui, en effet, c'est compliqué. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, Cécile Desonnet, parce que en effet, c'est un aspect important.
Oui, je pense que c'est enfin, moi, la manière dont je le présente, c'est ce qu'a dit Mathieu, c'est il faut changer le logiciel, en fait. L'objectif de la sobriété, c'est pas dire on veut une société où les entreprises ne produisent plus rien, ne gagnent plus d'argent, et du coup, finalement, tant pis pour elles, et les meilleurs s'en sortiront. Enfin, c'est pas du tout ça la logique. C'est
Comment on réinvente juste un modèle de création de richesse qui repose moins sur la consommation de ressources matérielles, sur la consommation de matières premières. Il y a d'autres manières, en fait, de créer des richesses.
Alors c'est quoi, Louis ? Qu'est-ce qu'on entend par richesse
en France,
dans ce cas-là ?
On est dans une société où les services, par exemple, représentent une part croissante de la création de richesses. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a des modèles qui reposent davantage là-dessus, sur le fait de vendre des produits qui peuvent être réparés, et on inclut un forfait réparation. Vous vendre des services qui soient vraiment déconnectés ou décorrélés aussi de biens. Donc, il y a d'autres manières de croître, ou en tout cas, si vraiment on cherche encore à croître. Mais, ouais.
Mais certains disent même que la sobriété, c'est une source de bien-être. On pourrait considérer donc que le bien-être puisse être aussi une richesse, au fond, non ?
Alors là, on revient à l'échelle individuelle. C'est ça qui n'est pas évident dans ce débat. C'est qu'on est en train de dire, à l'échelle individuelle, finalement, on voit à peu près ce qu'on veut dire. Oui, c'est un modèle qui fait qu'on consomme moins, mais finalement, on est heureux parce qu'on trouve d'autres sources d'épanouissement que cette consommation matérielle. Mmh. Et vient cette question de, oui, mais à l'échelle collective, comment on fait pour continuer à faire société pour faire face à nos dépenses collectives. Donc ces deux échelons, aujourd'hui, sont un peu décorrélés. Et c'est ça le problème. C'est qu'à l'échelle individuelle, ça pousse pour aller dans ce sens-là. Mais à l'échelle collective, on ne sait pas comment le penser.
Allez, on se retrouve dans un instant. On marque une petite pause avec Serge Gainsbourg et d'autres messages.
Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non ? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non ? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non ? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con.
Requiem pour un con, que c'est bon, Serge Gainsbourg.
France Inter, la Terre au carré.
Allez, en partenariat avec Reporter.net, ce dossier sur la sobriété avec un article qui sort aujourd'hui. Il y en aura 4 cette semaine. Hortense Chauvin, juste un mot rapide sur les solutions envisagées. Très concrètement, c'est ce que vous avez étudié avec Reporter.
Oui, en fait, il y a 2 solutions qui se dégagent. La première, c'est la tarification progressive de l'énergie, donc qui existe déjà par exemple au Japon ou en Californie. Mmh. Au Japon, au-delà d'une consommation de 300 kWh, le coût de l'énergie augmente de 35%. Et la deuxième, c'est les quotas individualisés. C'est ce qu'évoquait Cécile Desonnet tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on calculerait en fait le coût environnemental des produits et en fonction, chacun aurait une sorte de compte en banque carbone.
Ouais.
Qui pourrait dépenser pour s'acheter des produits
polluants. Un plan d'épargne carbone, voilà.
Exactement.
Ouais. Emmanuel, toujours sur franceinter.fr, nous écrit « Votre débat n'est-il pas vain face à la Chine, aux États-Unis et à l'Inde, et quid du continent africain ?» Cécile Desonnet.
Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser parce qu'on se dit finalement, nous on voit tout le temps ce chiffre qui circule, on représente que 1% des émissions
mondiale de CO2, à quoi ça sert effectivement que nous on se bouge si personne d'autre le fait. Je pense que la question peut pas être posée dans ces termes-là, parce que déjà nous on a une responsabilité historique aussi dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre qu'il faut à un moment assumer. Et par ailleurs, les enjeux, ils sont planétaires. De toute façon, les enjeux dont on parle et qui auxquels on a, enfin qu'on a appliqué à la France, ils vont concerner tous les pays et voire même encore plus ces pays aujourd'hui en développement. Donc de toute façon, eux aussi, ils vont devoir repenser leur logiciel, pas de la même manière parce que c'est pas la même culture, c'est pas le même modèle économique, mais tout le monde va devoir y passer. Et soit on s'y prend suffisamment à l'avance pour l'anticiper et gérer cette transition, soit ça devient assez dangereux et assez compliqué pour tous ces pays, mais et pas seulement.
Juste un mot sur la question des libertés individuelles, parce que fatalement, on sent bien que derrière la sobriété, il y a quand même des contraintes à ce niveau-là. On voit ce qui se passe avec le pass sanitaire aujourd'hui. Comment on peut imaginer qu'à plus grande échelle, la société va accepter justement ça?
Mais Bruno, la société, Vidalba, elle peut accepter beaucoup de choses à partir du moment où elle comprend la finalité et l'utilité. C'est-à-dire que dès lors que vous expliquez les raisons pour lesquelles on devra nécessairement passer par des réformes progressives, hein, il ne s'agit pas du jour au lendemain d'imposer un quota carbone à tout le monde, mais une finalité et surtout un échéancier. Mmh. Parce que on ne cesse de rappeler le premier rapport du GIEC disait il nous reste 10 ans, le second rapport du GIEC nous dit il nous reste 10 ans, le troisième il nous dit il nous reste 10 ans. Donc on voit bien que la marge de manœuvre se réduit. Donc soit on considère que on a une possibilité d'innovation technique, parce que ça, on l'a pas mobilisé encore, cet imaginaire-là qui ne cesse de reporter, hein, le fait qu'on va devoir être un peu plus serré dans nos choix. Soit on est dans cet imaginaire-là et auquel cas la sobriété se pose pas, puisqu'après tout, on aura toujours des moyens de substituer ce qui manquera, etc. Ouais. Soit on est dans une situation contrainte mondialement et à l'échelle de 10 milliards d'individus, faut pas qu'on simplement on raisonne là-dessus. Et si on veut que il y ait une possibilité pour que les sociétés continuent à se développer à peu près en harmonie, encore une fois, avec les non-humains, eh bien, il faut effectivement envisager d'autres possibilités et ne pas refuser de s'interroger même sur des solutions contraignantes.
Il nous reste une minute, Camille.
Un dernier message de Pierre sur Facebook. Dans une approche de la sobriété, ne pensez-vous pas que les personnes pauvres, entre guillemets, sont déjà dans une sobriété imposée, que ce soit en France ou, on parlait tout à l'heure du continent africain, par exemple, Hortense Chauvin.
Oui, ça c'est très intéressant parce qu'en effet, aujourd'hui, en France, il y a 3,8 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Et moi, il y a une intervenante que j'avais interviewée dans le cadre de cette enquête qui m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, que la sobriété, en fait, c'était pas la privation, c'était rééquilibrer, en fait, les choses. C'est-à-dire faire en sorte que les gens qui consomment trop reviennent à un niveau soutenable et qu'en revanche, tous les gens qui sont aujourd'hui en situation de précarité énergétique puissent subvenir à leurs besoins essentiels. Et ça, je pense que c'est ce que permet la sobriété, et c'est en ça que c'est un modèle de société intéressant.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. On aura l'occasion d'en reparler. C'est un sujet vraiment très important, si on en juge encore une fois par les messages qui nous arrivent très très nombreux. Cécile Désonnet, La société de déconsommation, c'est aux éditions alternatives chez Gallimard. Et puis donc reporter.net, vous pouvez cliquer à partir d'aujourd'hui, vous avez le premier article, et il y en aura 4 cette semaine, article que vous supervisez. Hortense Chauvin, merci beaucoup à tous les trois d'être venus. À bientôt.